Nous allons voir maintenant la vie de Marie d'Incarnation, Madame Acari. Barbe Avrillot naquit à Paris le 1er février 1556 de Marie L'Huillier et de Nicolas Avrillot, seigneur de Champlâtreux, conseiller maître ordinaire des comptes de la Chambre de Paris et chancelier de la reine Marguerite de Navarre. Il descendait de Jacques Cœur. Élevée dans une famille riche, catholique et royaliste, Barbe reçut une forte éducation chrétienne et une bonne instruction. À l'âge de 11 ans, elle fut placée à l'abbaye de Longchamp pour y continuer ses études sous la direction d'une de ses tantes qui y était religieuse. Intelligente, vive et gaie, Barbe ressentait de l'attrait pour la vie monastique, mais ses parents combattirent ce projet et la marièrent le 24 août 1582 à Jean-Pierre Acari, vicomte de Villemort et conseiller maître ordinaire des comptes de la Chambre Paris. Parfait honnête homme, à la fois très riche et très pieux. En même temps qu'elle menait une vie brillante dans le monde où on l'appelait la belle Acari, elle restait fidèle à sa vie de piété qu'elle partageait avec sa femme de chambre, André Levoix, qui sera la première carmélite française. Affable et gracieuse, épouse modèle d'un excellent mari dont elle eut 3 garçons et 2 filles, elle se livrait aussi à des œuvres multiples. Le rayonnement de l'hôtel Acari était grand et l'influence de la belle Acari, dépassant le cercle de sa famille et de ses relations, s'étendit à la cour et au clergé. On venait la consulter, attirée par sa prudence et ses lumières surnaturelles. Elle avait en un degré hautement sublime ce qu'on appelle le discernement des esprits. Des hommes éminents la consultaient dans des cas difficiles. Sa vie intérieure était intense. Un jour, au cours d'une lecture, une phrase la bouleversa. « Trop est avare à qui Dieu ne suffit. » Nous sommes en 1592 et des extases vont se multiplier. Elle ne les comprit d'abord pas et souffrit un martyre intérieur jusqu'à ce qu'elle trouvât enfin des guides éclairés comme le capucin Benoît de Kampfeld ou le chartreux Richard Beauvoisin qui la rassurèrent, voyant en elle l'action de Dieu. Cette haute oraison l'aidait à être une femme forte dans les conditions les plus difficiles. Son mari, qui appartenait à ce que l'on a appelé la Ligue, opposé à l'accession au trône du roi protestant Henri IV, fut condamné à l'exil et dépouillé de ses biens en 1594. Barbe Acari, par son énergie et sa sagacité, retrouva en partie le patrimoine confisqué. Toujours sereine, parce que toujours unie à Dieu, elle étonnait par sa patience et son amour des souffrances. Une jambe brisée par 3 fois la laissa toujours infirme, mais ne ralentit pas son activité apostolique. Beaucoup de princes et de nobles recherchaient sa direction. François de Sales était, lors de ses séjours à Paris, l'hôte assidu de l'hôtel Acari, et plus tard, saint Vincent de Paul y trouva aussi appui et lumière. En 1601 fut publiée une traduction de la vie de sainte Thérèse d'Avila. Madame Acari lut l'ouvrage et en fut très frappée. Puis sainte Thérèse lui apparut pour lui expliquer la mission qu'elle allait avoir à remplir, établir le Carmel en France. Madame Acari commença d'abord par se dérober, les temps n'étant pas favorables pour une fondation de cette nature. Quelques mois plus tard, elle eut une nouvelle apparition de la sainte qui lui ordonnait de fonder le Carmel en France. Étonnée et troublée, Madame Acari parla, comme malgré elle, de ses visions et du projet d'introduction du Carmel en France à 2 princesses de la maison d'Orléans-Longueville, Madame de Longueville et Madame d'Estouteville, qu'elle allait solliciter pour une bonne œuvre. Au lieu du refus auquel elle s'attendait, elle vit, à sa grande surprise, le projet approuvé et chaleureusement adopté par les 2 princesses qui se chargèrent d'aller elles-mêmes solliciter la permission du roi alors que tout semblait devoir la faire refuser. Confondue par ses faciles débuts, Madame Acari et ses directeurs y virent une marque incontestable de la volonté divine et se mirent avec ardeur à en réaliser l'exécution. Plusieurs réunions eurent lieu auxquelles prirent part Saint-François de Sales. La princesse de Longueville obtint du roi l'autorisation de fonder dans le royaume des monastères de carmélites réformés suivant la règle de Sainte Thérèse. L'emplacement pour le nouveau couvent fut vite trouvé à l'extrémité de la rue Saint-Jacques à Paris et l'on se mit à construire le monastère. Madame Acari surveillait elle-même avec le plus grand soin la construction des bâtiments et réunissait un groupe de personnes pieuses, désireuses d'entrer dans l'ordre que l'on établissait et s'appliquait à les former à la vie religieuse, à celle de Carmélite en particulier, d'après les écrits de Sainte Thérèse et les constitutions du Carmel. Le 3 novembre 1603, Clément VII, à la demande de Monsieur de Santeuil, secrétaire du roi envoyé à Rome, accordait la bulle d'institution. Cependant, le secours qu'on avait sollicité et espéré d'Espagne n'arrivait pas, et les carmes espagnoles se refusaient obstinément à envoyer des religieuses formées par Sainte Thérèse pour aider à la création du Carmel en France. Madame Acari décida alors d'envoyer en Espagne, munie de lettres de recommandation du roi Henri IV, trois personnes, dont Monsieur de Bérulle, pour essayer de ramener quelques religieuses professes formées par la sainte elle-même. Après 1000 péripéties, les voyageurs finirent par ramener, le 17 octobre 1604, 6 carmélites espagnoles d'une vertu éprouvée, dont 2, la mère Anne de Jésus et la mère Anne de Saint-Barthélemy, avaient été formées par Sainte Thérèse elle-même. L'œuvre du Carmel en France était fondée. Madame Acari aida aussi beaucoup Madame de Sainte-Beuve à fonder en France les Ursulines destinées à l'éducation des jeunes filles. Madame Acari contribua également beaucoup à la fondation de l'oratoire en décidant Monsieur de Bérulle à tenter l'entreprise et ce fut d'après ses avis qu'il établit cette célèbre congrégation. Madame Acari continuait cependant à diriger sa maison et à soigner son mari. Ses trois filles se donnèrent l'une après l'autre à l'ordre du Carmel que leur mère venait d'introduire en France. Un de ses trois fils se fit prêtre. Le 17 novembre 1613, Monsieur Acari mourut, soigné jusqu'au dernier moment par sa femme avec le plus complet dévouement. Bien qu'elle eût près de 50 ans et que sa santé fût des plus précaires, Madame Acari, se voyant libre, sollicita humblement la grâce d'être admise dans l'ordre du Carmel comme sœur converse et d'être placée dans un des plus pauvres monastères de l'ordre qui s'était multiplié avec une grande rapidité. Sa demande fut agréée par les supérieurs et la célèbre Madame Acari, si connue à Paris, à la cour comme à la ville, alla se cacher comme sœur converse dans l'ordre du Carmel où elle prit le nom de Sœur Marie de l'Incarnation. Pendant 5 années, l'humble sœur converse continua à prodiguer derrière les grilles du cloître les admirables exemples qu'elle avait donnés dans le monde et elle édifia toutes ses compagnes par son humilité, son zèle pour l'accomplissement de la règle et l'ardeur de sa charité, de son amour pour ce Dieu qu'elle avait toujours si fidèlement servi et si ardemment aimé. Transférée au Carmel de Pontoise le 7 décembre 1616, elle ne voulut être que la dernière et la plus pauvre de toutes. Ses sœurs carmélites admiraient son obéissance et sa charité, tandis que son union à Dieu consommée transparaissait en tout son être. Elle tomba malade le 7 février 1618. Les symptômes de l'apoplexie et de la paralysie se déclarèrent et elle ne tarda pas à éprouver des convulsions. Elle souffrait beaucoup. Elle mourut le 18 avril 1618. Elle avait 52 ans. Les miracles se multiplièrent sur son tombeau. Le 24 août 1691, le pape Pie VI mettait par un décret solennel Madame Acari au nombre des bienheureux sous le nom de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation.